Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour une table ronde organisée dans le cadre de la célébration des 70 ans de l'abbé Pierre, de l'appel de l'abbé Pierre. Je suis Zoran Miklosevic, je suis bénévole ici et j'accompagne la communication. J'animerai aujourd'hui cette conversation captée par Radio La Bigaille avec Jacques à la technique. Nos invités... Jérôme. Nos invités autour de cette table sont Claire Knobloch, fondatrice de la communauté Emmaüs de Saint-Agnan, Margarita Sola, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, ancienne bénévole d'Emmaüs à Saint-Romain-de-Menet, Véronique Pavageau, directrice générale de l'Office public de l'Habitat à Rochefort, Bruno Dutrex, conseiller municipal de Rochefort et vice-président de l'OPH, et ainsi que le sénateur Michael Vallée. Cette conversation va durer à peu près une heure et ensuite, si le public le désire, on aura une session de questions-réponses. Les questions aujourd'hui vont tourner essentiellement autour de l'habitat, du logement, la difficulté à se loger aujourd'hui. Je vous ai déposé à chacun, puisqu'on a trois chiffres clés qui vont revenir régulièrement, un extrait du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Voilà. Les chiffres du 29e rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre alertent sur une situation alarmante, proche de l'explosion. Et le constat aujourd'hui, vous avez ces statistiques et ces chiffres qui sont assez alarmants, 330 000 personne sans abri, 4 millions de personnes mal logées et au total 12 millions de personnes en fragilité pour l'habitat. La première partie de notre débat va débuter par un constat de notre situation d'aujourd'hui et quelles sont selon vous aujourd'hui les principales causes de ce mal logement en France ? J'aimerais d'abord donner la parole à Claire, qui a connu, puisqu'elle a été fondatrice de cette communauté, les différents publics dans le temps qu'on a rencontrés ici, qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Quels étaient les publics à votre époque ?
Alors oui, nous avons ouvert la communauté en 1989, mon mari et moi-même. Après avoir acquis le terrain et la propriété grâce à l'aide de toutes les communautés de France qui ont fait des dons sous forme de dons ou de prêts. Nous avons un accueil qui était différent de celui d'aujourd'hui puisqu'à l'époque, il y avait essentiellement beaucoup de personnes naturellement SDF venant de la Légion étrangère, des personnes qui avaient été à la DAS, personnes qui avaient des gros problèmes d'alcool, voire des problèmes aussi psychiatriques. Et il y a eu une évolution dans les années postérieures, à peu près dans les années 90, où on a accueilli plus d'étrangers, puisque il y avait des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, qui ne faisaient pas encore partie de l'Europe d'aujourd'hui, et qui cherchaient donc refuge, qui venaient beaucoup aussi pour des raisons économiques. Voilà, c'est une évolution du type d'accueil. Nous avions travaillé auparavant avec mon mari 8 ans à Emmaüs en Allemagne et 2 ans en Vendée avant d'ouvrir cette communauté. Et on a fait beaucoup d'accueil en caravane, en mobilhome. Il y avait beaucoup de demandes, plus que de possibilités d'hébergement. Et on a eu après l'idée de s'adresser à l'office HLM pour la construction d'une résidence sociale qui a été inaugurée en 2010. Après 2 ans après l'ouverture du hangar, qui a été, lui, le hangar aux normes officielles pour la vente, l'accessibilité au public, c'était en 2008. Voilà, c'est donc beaucoup de travail, mais c'est essentiellement le fait que des personnes qui n'étant pas logées acceptent les conditions d'accueil qui sont de travailler à l'encontre du logement, de la nourriture, d'être habillées, blanchies, transportées. On a beaucoup de soucis pour tous les problèmes de santé. Et puis, elles ont une allocation qui est en fin de compte de l'argent de poche. Ils sont déclarés à l'URSSAF et sur un forfait qui est convenu.
Erwan, est-ce que tu peux nous parler des publics que nous avons aujourd'hui chez nous ?
Alors aujourd'hui, que ce soit Saint-Agnan ou en général dans les communautés Emmaüs de France, on estime qu'on accueille à peu près 60-65% de personnes qu'on appelle migrantes, qui sont dans des situations administratives délicate. Nous continuons à avoir des anciens légionnaires qui peuvent interroger sur la Légion. Bien sûr, nous avons des personnes qui ont eu des accidents de vie et qui n'ont pas réussi à remonter, des problématiques liées à différentes addictions. Sur la communauté de Saint-Agnan, nous avons sur 30 personnes 13 nationalités. Et quelque part, je pense que l'équipe des bénévoles et des salariés de la communauté est extrêmement fière finalement de cette diversité, parce que accueillir 13 nationalités dans un petit lieu comme ça et arriver à produire 1 million de chiffres d'affaires annuels avec des gens qui s'entendent, qui ne se comprennent pas toujours dans la même langue, mais qui s'entendent et finalement arrivent à travailler ensemble, c'est quand même un sacré gage de réussite.
Madame Pavageau, est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce sujet par rapport au public que vous
Oui, vous alors rencontrez. Nous, on va être plus généraliste. Alors après, c'est peut-être plus à mon vice-président de parler, mais nous, on a construit la résidence Emmaüs en 2010 et on vous l'a livrée. Moi, je n'étais pas directrice générale à l'époque, j'étais que directrice relations clients, mais on a suivi beaucoup et on est allé à Tours voir des communautés pour voir comment on pouvait vous construire ces 20 studios. Avant, je me rappelle, il y avait des caravanes et des mobilhomes hein, qui étaient là. Donc on est quand même enchanté d'être là aujourd'hui pour discuter. Alors après, on est plus généraliste. Nous, on représente l'Office public de l'habitat de la communauté d'Aglo. C'est 2700 logements. Globalement, on a du pavillonnaire et du collectif. Et après, on a 58% de nos locataires ont l'APL. Ce qui veut dire que c'est des revenus quand même assez bas. Voilà, et on est sur 14 communes de l'agglo. Et aussi, on a une diversité, résidence Emmaüs, mais on a aussi fait le foyer d'occupation et d'hébergement pour jeunes trisomiques à Surgères, pour l'ADAPI. Et on a aussi fait la résidence pour malades psychiques dans les faubourgs de Rochefort pour l'œuvre Emmanuel. Donc on essaye aussi de se diversifier. Et actuellement, on a d'autres...
Des projets d'habitat inclusif.
Voilà, pour les personnes handicapées, des personnes âgées.
Et pour l'autisme.
Oui.
Et pour l'autisme, changement intime, autisme également, dans l'ancienne partie du tribunal qui était la direction territoriale qu'on a achetée, où on va pouvoir créer 5 logements, c'est ça, ce fera de ma part pour les autistes, avec un animateur, accompagnateur également.
D'accord. En termes de demande, est-ce que vous êtes sur une demande constante qui est
constante.
C'est on est explosion, oui. Explosion en évolution
qui explose, en permanence, hein, je parle sous votre contrôle, on a à peu près 2200 demandes pour une offre de 2700 logements, donc en permanence, quoi. Et elle s'est accrue ces dernières années pour plein de raisons qu'on évoquera sûrement plus tard, mais enfin que vous connaissez tous, des raisons économiques. Voilà.
Monsieur Vallée, quand vous avez vous avez des racines ici, et maintenant vous avez une vision nationale, Est-ce que la Charente-Maritime, est-ce que notre région, est-ce que Rochefort et sa périphérie est différente du reste de la France ? Est-ce qu'il y a des particularités ici ?
Je voudrais bien vous rassurer, mais non. Ce qui est d'ailleurs intéressant quand vous siégez dans un groupe au Sénat, dans un groupe parlementaire, c'est de se rendre compte quand on a nos réunions le mardi matin où on essaie de déterminer un peu les sujets qu'on veut faire ressortir. Si vous parlez des déficits des EHPAD, tout le monde lève la main. Si vous parlez du problème du logement, c'est absolument partout, avec ensuite des différences qui ne tiennent pas justement à des questions de racines ou des questions de territoires qui veulent se donner des identités un peu fictives ou factices. En fait, les problèmes de logement sur le littoral, que ce soit en Corse, que ce soit ici, que ce soit dans le Pays Basque, enfin dans les Pyrénées-Atlantiques, vous avez les mêmes. Les problèmes de logement en milieu rural à l'intérieur, où on imagine qu'il y a moins de problèmes, en fait, tous les espaces qui se ressemblent ont les mêmes difficultés. Et donc, il y a bien un sujet national, et c'est d'ailleurs pour ça que sur la question du logement, c'est quand même l'État qui est très attendu. Même si derrière, il y a des déclinaisons, il y a des marges de manœuvre sur le terrain, il y a des volontés politiques ou des moindres volontés politiques d'un point de vue municipal, mais c'est bien un sujet qui est national, parce que la question de la solidarité, elle est bien nationale. Et tout ce qui vient d'être évoqué à bâton rompu, les problèmes de psychiatrie, les problèmes de pathologie qui demandent un suivi particulier, les questions entre guillemets d'autisme, ou la question des légionnaires, ou des personnes qui ont à retrouver, après avoir eu une vie, on va dire, extrêmement cadrée, qui ont à retrouver un autre cadre ou se donner eux-mêmes une marge de manœuvre, ce sont des sujets qui sont totalement transversaux sur l'ensemble du pays.
D'accord. Margarita Sola, vous souhaitiez intervenir sur l'explosion de toute cette demande de logement, de cette précarité ?
Oui. En fait, moi, je souhaite intervenir sur cette thématique parce qu'il me semble qu'effectivement, si on a une volonté politique forte et affichée au niveau de l'État avec des priorités, notamment au niveau des obligations des communes à construire du logement social, là, on est complètement à rebours en ce moment. Bon, j'avais promis que j'en parlerais pas, mais j'en parle. Non, mais je veux dire, c'est compliqué aussi. Alors moi, en tant qu'élu régional, ce que je peux témoigner ce que disait Michael au niveau de l'intérieur des terres, des difficultés de logement pour des gens qui sont originaires d'un village, qui sont originaires d'un hameau en proximité d'un village et qui sont en difficulté par rapport à un logement. Dans le centre-bourg, il y a toute une politique régionale d'accompagnement. Je pense à un village dans la Vienne où un immeuble a été racheté par la collectivité et la région a été très aidante dans l'élaboration du projet pour faire 4 logements, dont un logement adapté qui peut s'adresser à des gens en difficulté de mobilité, mais aussi à des gens qui sont en difficulté par rapport à des repères psychiques. Donc, c'est pas un logement 4 handicaps, mais pas loin, quoi. Et les 3 autres, pour permettre à une personne en rez-de-chaussée d'être une personne âgée, d'être dans le cœur de bourg, et 2 autres, permettre à des jeunes travailleurs du coin. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos campagnes, là, on vient d'avoir une crise agricole majeure. Il ne faut pas oublier que les ouvriers agricoles, ce sont des gens qui sont payés extrêmement chichement, et qu'il faut bien que ces jeunes, que ces moins jeunes, parce qu'on parle des jeunes agriculteurs, mais il y a aussi des gens beaucoup moins jeunes qui ont loué leur force de travail en permanence dans les fermes et dans les plus grosses formes de production agricole et qui ont besoin de se loger à bas prix. Et si je peux me permettre, je pars sur un autre axe, mais qui est le même. La Fédération des auberges de jeunesse, qui de plus en plus héberge des travailleurs qui viennent faire des chantiers, parce que c'est pas possible quand on est travailleur, quand on est ouvrier, de louer pour 2 mois, 3 mois un studio dans une ville, qu'elle soit en proximité d'une cité touristique ou qu'elle soit, comme il y a un déficit tel de logement, les gens ne peuvent plus se loger. Alors je pense qu'il faut... Alors moi, je dis qu'il y a une responsabilité effectivement de l'État, au niveau de ses choix et de ses orientations. Mais après, c'est pas le tout de dire ça. Donnons-nous tous la main pour essayer d'accueillir au mieux sur nos territoires, avec nos possibilités, et d'être inventifs, créatifs, et trouver des solutions qui puissent, au moins, dans la dignité, accueillir les gens.
Dans la problématique actuelle, quels sont les plus gros blocages ? Qu'est-ce qui bloque le plus pour développer justement l'habitat accessible ? On a... On a vu l'augmentation des carburants, on a vu l'augmentation des matières premières. Nous, aussi, chez Emmaüs, on a des logements qu'on est en train de refaire. On a été obligé d'être à côté, de suivre des normes qui ont été très compliquées, puisque au lieu de construire à nouveau, ça nous aurait coûté moins cher de construire à nouveau, on a été obligé de rénover à des prix exorbitants. Est-ce que Erwan, tu peux nous préciser ça ?
Oui, alors bon, c'est un peu le problème, c'est que malheureusement, on est dans ce fichu pays toujours confronté à des normes et à des cadres réglementaires. Alors c'est vrai que je ne suis pas l'abbé Pierre, mais en son temps, lui, il disait quand la loi est mauvaise, il faut la changer. Et du coup, il a créé le logement. Il n'a pas solutionné le problème, mais en tout cas, il a fait en sorte que l'État prenne ses responsabilités. Nous, aujourd'hui, à Emmaüs, on est confronté à une situation ubuesque qu'on comprend, hein. C'est-à-dire le cadre réglementaire, le PLU, nous dit on ne peut plus construire. Bon, on a eu construit une aile grâce à vous. Ça aurait été tout à fait cohérent de faire le pendant en face, et ça aurait été beaucoup moins onéreux. Et étant donné qu'on n'a trouvé aucun cadre réglementaire pour pouvoir réaliser notre projet, effectivement, on est contraint. Là, on vient de rénover la maison de maître pour créer 7 logements pour 400 000 euros. Et le prochain projet pour faire 8 autres logements, dont des logements pour des personnes âgées en rez-de-chaussée, on est à peu près sûr que ça va nous coûter certainement beaucoup plus, puisque 400 000 euros, c'était le devis qu'on avait il y a 3 ans. Donc on est confronté, et ça c'est Emmaüs tout seul, enfin, qui assume avec des emprunts, etc., etc. Mais c'est vraiment Emmaüs. On est confronté à des aberrations légales. On est une vraie réponse. Bon, on parle de 15 logements, mais c'est pas rien, 15 logements. Et on a vraiment du mal parce que le cadre ne pense pas, quoi.
Je vous en prie. Vous vouliez intervenir ?
Oui, je voulais intervenir. Je voulais quand même rappeler que le logement social est malmené, particulièrement depuis la loi Elan en 2018, où les bailleurs sociaux, quels qu'ils soient, ont tous perdu avec la RLS, puisqu'on a été obligé de compenser les baisses des APL en baissant les loyers de nos locataires. Et aujourd'hui, c'est à peu près 1,5 milliard qui manque chaque année pour le logement social, tout opérateur confondu. Donc c'est colossal. Là-dessus, s'est greffée la crise sanitaire que tout le monde connaît, qui a induit une baisse de rotation aussi de logements. Les gens, après le Covid, sont restés plutôt dans leur logement. Donc aujourd'hui, on a perdu entre 2 et 3 points de taux de rotation. Je parle sous votre contrôle. À cela, après, comme tout le monde, le coût des matériaux de construction, la raréfaction du foncier, les règles de construction, etc. Et puis enfin, dernier coup de grâce, si je puis dire, c'était l'augmentation des taux. Nous le finançons en empruntant auprès de la Caisse des dépôts de la Banque des territoires, et nos emprunts sont indexés sur le taux du livret A. Vous comprendrez aisément que quand on emprunte à 0,5 et puis après à 3, les charges financières ne sont plus les mêmes. Donc on a beaucoup de difficultés, et aujourd'hui, alors on y arrive encore. Et tant qu'on y arrivera, mais ça ne va pas durer. C'est pour ça que la bombe sociale du logement, un jour, c'est en passe d'exploser. Hein. Donc il faudrait... On va voir notre prochain ministre du logement.
Est-ce qu'on est au niveau d'un plan Marshall du logement ? Est-ce qu'il faudrait un grand plan ?
Bien sûr. Il y a eu plein de rendez-vous, mais des rendez-vous manqués, quoi. D'accord. Enfin,
Ce qu'il faudrait, ce qui nous manque, c'est une vraie politique nationale du logement. Et on ne l'a plus depuis les années 80. Voilà. Il y a eu des choses qui ont été faites. Après, voilà, il y a le plan logement d'abord. Il y a eu 400 000 places ces dernières années qui ont été faites pour l'hébergement d'urgence. Mais on voit qu'en même temps, la population française croît. Il y a des décohabitations au regard des séparations des couples, ce qui fait qu'on court après. Notre population court après du logement. Et tout à l'heure, le vice-président l'a dit, on a en plus, après le Covid, des gens qui n'ont pas pu accéder à la propriété, donc ils restent dans le logement social. Il y a la problématique des gens âgés. On l'a dit, nous, 28% de nos locataires ont plus de 65 ans. Et nous, nos locataires, ils n'iront jamais dans des résidences seniors privées à 2000 euros le mois. Donc on est en train de travailler aussi sur une adaptation de nos logements. Mais ce que je voulais dire là, c'est qu'on arrive depuis 4-5 ans, à une convergence de problématiques. Il n'y a pas de politique d'État définie, en tout cas, voilà. Je pense que les acteurs locaux, tout le monde essaye de trouver des solutions, mais ce n'est pas suffisant. On boutique des choses, on y arrive, mais à terme, c'est pas suffisant. Donc on attend vraiment Emmanuelle Cosse, notre présidente de l'Union sociale pour l'habitat, qui a été une ancienne ministre du Logement, au dernier congrès de Nantes, notre congrès HLM à Nantes en septembre, il y a eu une motion en disant « il nous faut une vraie politique du logement, il faut qu'on nous entende ». On ne peut pas dire que la démographie va baisser. Certes, ça va baisser. Mais les gens vont vivre de plus en plus seuls, âgés et plus urbains. Et on n'a pas forcément les logements adaptés. Nous, par exemple, structurellement, dans les logements sociaux, c'est des logements, des grands logements pour les familles qui sont arrivés dans les années 60-70. Et il nous manque des petits logements. Donc on n'est pas non plus en adéquation forcément avec la demande. Mais il y a une énorme pression. Nous, on a 2000 demandes en attente, il y en a 10 000 à La Rochelle. Et quand on dit qu'il y a 2 millions ou 2,5 millions de personnes qui attendent du logement social en France, c'est énorme.
On entend que toutes les catégories sont touchées, finalement. Aussi bien les jeunes que les seniors, que les travailleurs pauvres, que... nous, chez Emmaüs, on a un modèle qui est un modèle particulier qui fonctionne, mais enfin qui auto-fonctionne en plus. Notre problématique, c'est pas forcément celle-là, c'est qu'on aimerait avoir du foncier. Enfin, on a du foncier, mais qu'on ne peut pas utiliser, c'est ça?
Oui, alors la problématique ici est celle-là. On est effectivement un type de réponse sur le territoire. On n'est pas le seul. Hein, on fait partie d'un type de réponse. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, je pense que la richesse d'Emmaüs, c'est d'être une structure extrêmement élastique, quelque part. C'est-à-dire qu'on s'adapte. On est quelque part le reflet, peut-être pas le reflet que la société a envie de voir, mais on est le reflet de la société, de sa diversité, de son évolution, etc. Et ce qui fait la magie d'Emmaüs, c'est qu'on sait s'adapter aux changements sociétaux. Et c'est notre élasticité qui nous donne cette possibilité-là. Et aujourd'hui, on est confronté à un cadre réglementaire qui nous contraint et nous empêche de faire notre boulot. Je prends un autre exemple que je comprends à nouveau tout à fait. On avait 7 mobilhomes sur le terrain qu'on a utilisés. Et clairement, c'était la règle, le temps d'une construction, et on le comprend très bien. N'empêche que ces 7 mobilhomes ont permis à plusieurs dizaines de personnes sur 5 ans d'avoir une solution et d'être toujours en vie. Parce que quand on arrive à Emmaüs, pour beaucoup, parfois, on est sur le fil de passer de l'autre côté. Et on comprend bien que c'est difficile d'autoriser Emmaüs à avoir des mobilhomes quand d'autres propriétaires dans le coin aimeraient bien avoir un mobilhome. Mais on n'est pas n'importe quel propriétaire. On est Emmaüs et on a un devoir d'humanité qui est reconnu, hein, qui est gravé dans la loi, puisqu'on est reconnu. Et malheureusement, on est très régulièrement en but à une manière de faire, à une manière de comprendre la réalité qui nous dépasse. Enfin, mettez-vous à la place de gens qui travaillent ici et qui, tous les matins, doivent dire non. Moi, ça m'est arrivé juste avant l'anniversaire du 1er février. J'avais une Guinéenne qui toquait tous les matins à mon bureau pour me dire « j'ai besoin d'une place ». Et je n'avais pas la place. J'ai dû dire à cette personne de s'en aller. Et comme elle ne comprenait pas, j'ai dû hausser le ton. C'est horrible de faire ça. C'est vraiment insensé. Et effectivement, j'aurais eu un mobilhome, je ne me serais pas posé la question.
Je vous en prie, vous vouliez intervenir ?
Oui, en fait, il y a plusieurs portes d'entrée sur le sujet du logement. Il y en a des dizaines qui ont été évoquées là. Je voudrais juste rebondir là-dessus et puis pointer du doigt quelque chose de plus général. Je suis très, très précautionneux avec le discours qu'on entend aujourd'hui dans plusieurs cadres. Et donc là, ici, la semaine dernière, sur la question de l'agriculture, à d'autres moments, sur la question des normes. C'est-à-dire que moi, je pense que ce discours sur les normes est une espèce de rideau de fumée qui empêche de se poser d'autres questions. Mais je comprends
qu'au quotidien, la réalité de ce qu'on se cogne comme difficulté, c'est parce qu'on vous dit « la règle est celle-ci ». Mais je crois, ce que je vais dire est un peu caricatural, mais que c'est un faux problème. S'il y avait de l'argent, ce que madame évoquait tout à l'heure, s'il y avait de l'argent, c'est-à-dire que si on choisissait que l'argent qui est partagé, qui est, je vais employer un terme non pas caricatural, mais qui parfois fait peur, mais pourtant c'est bien de ça dont il s'agit, si on collectivisait des moyens, des ressources pour dire le logement, c'est comme la santé, c'est comme l'art, enfin, ou en tout cas l'accès à l'art, c'est comme le fait d'avoir la garantie de pouvoir se nourrir, ça, il faut mettre les moyens. Et pourquoi est-ce que les moyens n'existent pas? Alors d'abord, ça apparaît de manière plus en plus criante, parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui viennent se croiser, que vous avez décrit tout à l'heure, entre les crises sanitaires, les questions purement financières, les questions de démographie, les questions d'évolution sociologique. Bah oui, il y a des personnes seules, et alors la cerise sur le gâteau, c'est des personnes seules qui ne sont pas seules une semaine sur deux, parce qu'un week-end sur deux, faudrait presque avoir des logements à géométrie variable. Ça, c'est le problème structurel et fondamental. La question des normes, heureusement qu'il y a des normes, heureusement qu'il y a des règles, parce qu'autrement, tout partirait dans tous les sens en cacahuète, et il y aurait même des gens qui seraient mal logés. Moi, sur la commune dont j'étais maire, j'ai eu des cas comme ça à gérer, des personnes qui étaient mal logées, qui mettaient en danger leur santé, qui mettaient en danger la santé de leurs enfants pour être logés dans des mobil-homes merdiques, mal chauffés, des risques que ça prenne feu, etc. Donc la norme, on en a besoin de la norme. Ce qui n'est pas tolérable, ce que tu soulèves, c'est quand on se suffit de l'explication de la norme pour venir dire « écoutez, c'est comme ça, point ». Non, qu'il y ait une norme, ok, mais derrière la question c'est comment on fait malgré tout pour régler le problème. Est-ce que, de la même façon qu'on considère, je vais prendre un exemple, pardon, qui va être choquant, mais figurez-vous que pour faire une station d'épuration, on est en dehors de ces règles qui vous interdisent de construire en rupture d'urbanisation ou de construire sur des zones boisées classées, agricoles ou que sais-je. Je le dis de manière... je le dis rapidement et peut-être mal et pas précisément en détail, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire un nouveau lotissement, vous ne pouvez pas le faire à tel endroit. Si c'est pour faire une station d'épuration ou une gendarmerie, vous pouvez. Donc, en fait, la question que tu soulèves, c'est sur ces habitats d'urgence, quand il y a la reconnaissance d'une situation particulière, type une communauté comme celle d'Emmaüs, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à débloquer les choses? Pourquoi? Parce qu'il y a la question d'abord des moyens financiers, et ensuite parce qu'il faut prendre la responsabilité de ça. Et prendre la responsabilité de ça, vous avez aujourd'hui des préfets, des services de l'État, dans les départements, dans les régions, qui n'ont plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'ils sont tous le petit doigt sur la couture, et ils ne peuvent plus faire, comme il y a une trentaine d'années, dire « écoutez, moi je comprends qu'il y a une situation particulière, je vais essayer de le faire remonter », et de faire accepter qu'on trouve le moyen. Ça, ils n'ont plus la marge de manœuvre, ils n'ont plus l'ingénierie pour le faire. Et puis le deuxième point dont je voulais parler, qui rejoint ce que je viens de dire, c'est qu'aujourd'hui, pour accepter cette collectivisation de moyens, il faut accepter de voir dans l'autre quelqu'un qui, enfin, comme on dit, à chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, quelqu'un qui a besoin d'un coup de main supplémentaire parce que ça pourrait m'arriver moi aussi. Et là, on touche un problème qui n'est pas que financier, qui n'est pas financé, qui est un problème de discours général consistant à dire « et pourquoi eux, ils y auraient droit ?» Parce que moi aussi, je suis dans la panade. Pourquoi eux, ils ont tout ? Dans l'analyse de certains votes, dont vous comprendrez ceux que je veux évoquer, un des points fondamentaux, c'est que des gens qui se considèrent comme étant dans la classe moyenne ou dans des classes qui commencent à avoir financièrement quelques difficultés sont hyper allergiques au fait que ceux qui ont moins puissent être aidés alors qu'eux considèrent qu'ils ne sont pas aidés. Et pendant qu'on se chicane entre nous, je veux dire là, dans des régions comme la nôtre, où le revenu fiscal médian n'est pas terrible, il n'y a pas non plus un écart énorme entre les tout petits salaires et les très gros salaires, pendant qu'on se chicane, on ne voit pas la poutre dans l'œil qui est qu'il y a de l'argent. Il n'est pas normal qu'il y ait de l'argent qui circule, qui se brasse, qui soit capitalisé, qui soit thésaurisé, qui ne sert à rien collectivement et qui ne soit pas mis là-dessus. Si une taxe sur les super-profits dont le ministre de l'économie avait dit qu'il ne savait pas ce que c'était que des super-profits. Après, il a compris quand même. Si une taxe sur les super-profits du Covid avait été mise en œuvre, une taxe sur les super-profits, pas sur l'ensemble des profits, c'était pas furieusement collectiviste, hein, l'affaire. C'était pendant 5 ans 10 milliards d'euros par an. Et vous avez évoqué même le chiffre d'un milliard. Alors les 10 milliards, tout le monde se dit avec 10 milliards, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est extraordinaire dans le domaine de la santé. On peut les manger 10 fois les 10 milliards. Enfin déjà pour commencer, donc, c'est cette tolérance au fait qu'il y en ait qui ait tant d'argent, il y a des structures qui ont de l'argent, donc que faire ? Et à côté de ça, on se chicane. Et comme tu l'as évoqué, j'en termine, c'est le risque d'avoir d'autres personnes qui disent « Oui, mais moi, on ne m'a pas permis de mettre ça dans mon mobilhome. » C'est là où il faut trouver la bonne façon de faire. Mais, et pour terminer vraiment, la force de l'abbé Pierre, comme d'autres d'ailleurs, comme un historien qui s'appelait René Raymond, qui disait du général qu'il avait fait de la désobéissance la forme supérieure du devoir. Bon, il y a bien un peu de ça quand même, quoi. À un moment, si on ne secoue pas les choses pour dire « Écoutez, non, ça sera comme ça et pas autrement », les règles ne changent pas. Mais le but, c'est bien de faire changer les règles. Et d'ailleurs, l'abbé Pierre était parlementaire.
Chacun, il semblerait que la solution, elle soit financière. Chacun à son niveau, au niveau des communes, chez nous. Le nerf de la guerre est l'argent. Effectivement, vous venez d'aborder cette taxe. Est-ce que c'est la seule solution ? Est-ce que c'est vraiment ce manque d'argent ou ce manque de vision qui fait que chacun à son poste, à sa fonction, est désemparé face au mal logement. Est-ce que c'est la seule problématique ?
Après, moi, je pense que depuis plusieurs années, enfin, en tout cas pour la politique du logement, je pense que les ministres du logement qui se sont succédés ces dernières années étaient trop, inféodés à Bercy. Bah, voilà. Et il n'y a qu'un prix. Si on continue sur ce prisme budgétaire, c'est pas que c'est le seul obstacle, hein. Il peut y en avoir d'autres. Mais au moins, lever ça, et que nous, on récupère nos 1,5 milliard, et puis d'autres choses, parce que là, c'est ce qu'on perd, mais on craint de perdre d'autres choses à terme. Hein. Même les aides de nos collectivités locales très proches. Le département, notre collectivité d'agglo, parce que nos collectivités ne sont pas non plus, n'ont pas des budgets... pharaonique. Hein. Donc l'idée, c'est tout ça. Mais il faut que... Alors on verra ce nouveau ministre. On verra. S'il y a un autre prisme et qui est une politique. Et c'est pas que la politique du logement social. Là, on parle aussi pour les promoteurs privés, pour la construction, pour la fédé du bâtiment. Parce que ce qui arrive là, c'est pas de logement, des gens dehors, des salariés qui dorment dans des voitures, dans des mobil-homes ou même dans des campings, et des entreprises du bâtiment, des architectes, des cabinets structures qui vont fermer. C'est aussi une crise économique. Enfin, ça va être tout en lien. Voilà.
Je peux rebondir sur une... Parce que je ne peux pas m'empêcher là de faire le lien depuis tout à l'heure entre la crise du logement et la crise de l'emploi. Quand je pense... Enfin, ça, c'est un des dadas du président Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la réindustrialisation. Il faut savoir que Nouvelle-Aquitaine a fourni, sur les 5 dernières années, 37% de l'emploi industriel de France. Et pas que dans des communes-centres, pas que à Bordeaux, pas que à La Rochelle, pas que à Limoges, non. Notamment dans le domaine de l'excellence, dans le domaine... de l'aviation, des politiques extrêmement audacieuses qui ont été mises en place. Le ferrocampus à Saintes, le ferrocampus qui va devenir, comme l'aérocampus à La Traîne, c'est déjà un pôle de référence au niveau national et international. Au niveau européen, on est extrêmement regardé parce que c'est en fait le train de demain. On voit bien que les chiffres des voyageurs en train ont augmenté de plus entre 30 et 40% suivant les trajets sur les deux dernières années. On se rend bien compte que les gens ont conscience de la nécessaire mise en route de transports comme ça, multimodaux. Le ferrocampus, c'est ça. C'est réfléchir le train de demain. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est implanté dans un lycée technique, dans un lycée à Saintes, le lycée Bernard Palissy, et qu'on est absolument observé et regardé. Au début, les gens, il y a 5 ans, quand le président Rousset a eu l'idée avec Jacques Aymon, qui est un élu du territoire saintais, de mettre en place ce projet, les gens ne voyaient vraiment pas. Et peu à peu, le temps passe et les gens se rendent compte à quel point il faut savoir qu'au niveau du rail, la mise en état des voies, des rails, c'est la responsabilité de l'État. La responsabilité des machines incombe pour les TER à la région. Mais là, quand on a, parce qu'on a souvent des ralentissements au niveau des voies, au niveau de la qualité d'entretien des voies, il faut savoir que c'est une part de l'État qui n'a pas été assurée. Donc toutes ces choses-là. J'en reviens au développement économique, parce que pour moi, je n'ai pas envie de dissocier logement et développement économique. Quand, dans des secteurs beaucoup plus, beaucoup moins attractifs dans la tête, hein, je dirais dans la tête, parce que quand on voit ce qui se passe à la souterraine, dans la Creuse, avec le maire et son équipe qui impulsent de beaux projets, qui impulsent et qui sont soutenus par la région, il y a une remise en état des centres-bourgs, parce que les gens, compte tenu que le logement est beaucoup moins cher qu'à Rochefort, à Sainte, à Marennes, on a des gens qui investissent et qui peuvent se permettre, parce qu'ils sont dans des secteurs professionnels où ils sont correctement payés, où ils sont pas mal menés, où ils ont des contrats de travail absolument respectueux, et ça leur permet d'engager une vie de citoyenne, de famille, dans leur commune. Donc moi, je pense aussi que c'est important de faire le lien entre développement économique, ne pas laisser la désertification gagner, permettre aux villages, dans les multiservices, la région soutient énormément. J'ai aussi envie de parler de l'économie sociale et solidaire. C'est quand même 17% de l'économie en Nouvelle-Aquitaine. L'économie sociale et solidaire, c'est un volet important. L'économie circulaire, je veux dire, tout ça, ne pas puiser dans les ressources, mais recycler, arriver à regarder... vous êtes complètement à la pointe depuis 60 ans maintenant. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement ça qui est aussi un vecteur d'emploi, de considération. Et quand vous allez voir les recycleries, je pense à Surgère, c'est super joli. C'est pas du tout des lieux d'abandon ou ici. Si vous venez sur le chantier, c'est super joli, c'est appétant. On a envie de s'y promener.
C'est un lieu de travail et un lieu de vie à la fois.
Et moi,
vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Pardon. Et il veut me faire taire.
Pardon.
Non, mais c'est parce que je veux vraiment faire le lien entre l'aspect économique de création d'emplois, le devoir aussi des élus d'être imaginatifs en lien avec le logement.
Très bien. Oui, juste sur un point, et puis vous donner un exemple, mais moi, vous m'arrêtez quand vous voulez. Cette idée selon laquelle on a toujours plus tendance à se demander pourquoi ils y ont droit et pourquoi pas moi, parce que moi aussi, j'ai des difficultés, c'est quelque chose qui est assez récent. En tout cas, c'est à un niveau qui est assez récent et qui est venu depuis quelques années. Je regarde sur les murs, là, je vois le nombre de fois où RTL est cité comme ayant participé. Bon, aujourd'hui, sur CNews et chez Cyril Hanouna, si vous voulez, c'est pas tout à fait le même état d'esprit, quoi. Hein, on va plutôt regarder tout ce qui va pas, ce que des gens qui ont droit à des choses auxquelles ils n'ont pas droit et pourquoi ils y ont droit. Et on montre pas ce qu'il y a de plus beau dans la nature humaine et dans la solidarité, ou alors c'est du chiqué. Là, c'était pas la même chose. Donc le premier combat collectif, c'est la question de l'état d'esprit. C'est de pouvoir dire à un moment, et ça vous gêne qu'on aide ceux qui ont le plus besoin, et pourquoi ça vous gêne? Et vous, vos parents, vos grands-parents ou vos enfants, ils n'ont pas un risque qui pèse au-dessus de leur tête. Et ça, c'est un combat culturel et un combat de mentalité. Et il faut le mener en permanence. Il n'y a pas de baguette magique et ce n'est pas une loi qui changera ça. Deuxième point, un petit exemple. Une fois qu'on a dit ça, il faut que chacun fasse devant sa porte. C'est-à-dire la question de l'État. On a plein de sujets en ce moment. Les locations du type Airbnb, les questions de fiscalité, tous ces sujets-là. On en reparle, si vous voulez, à un moment. Mais c'est une vraie bataille en haut. Le ministre du Logement est resté 6 mois. Le nouveau, je ne sais pas combien de temps il va rester. Celui d'avant est resté 1 an. Il y a aussi un problème sur la considération. Donc, il faut que chacun fasse devant chez lui. Et je vous donne un petit exemple. Quand j'étais maire de la commune, à un moment, on se retrouve, comme tout le monde, avec des difficultés d'urbanisation. Et il nous reste quelques hectares à urbaniser. Donc, 2 solutions. Soit on ouvre ça, on confie ça à des lotisseurs, et puis vaille que vaille. Soit on fait autre chose. J'ai passé de très mauvaises nuits, très mauvaises, parce qu'il a fallu décider. Et au départ, ce n'était pas évident. On a fini par faire un écoquartier dont tous les terrains appartiennent à la commune, qui ont été achetés à des prix très inférieurs du prix du marché parce que je n'ai pas laissé le choix aux propriétaires, avec un zonage de PLU qu'on a... La presse ne le répétera pas, mais enfin bon, c'est diffusé. qu'on a un peu bidouillé parce qu'on a fait une révision de PLU et puis ça s'est pas trop vu. Et puis tant mieux, des propriétaires qui nous ont vendu, qui ont été très compréhensifs et qui ont compris que c'était pour loger tout le monde et pour loger leurs enfants. Et à la fin, à Marennes, en centre-ville, on sort des maisons plus terrain pour des familles, couples avec enfants, à 130 000 euros. Mais tous les ans, la commune met 130 000 de sa poche. Et il est là aussi la collectivisation. Vous ne pouvez pas dire on va loger les gens. On a 30% de logement social, je précise aussi. On a 27% là sur la première tranche. Vous ne pouvez pas dire aux gens on va vous loger, on va régler le problème, et ne pas mettre de l'argent public. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que j'ai pas entendu en conseil municipal? Qu'on allait voir débarquer, c'était la grande expression, on allait voir débarquer tout le petit Marseille. Petit Marseille qui est un quartier plutôt sympa en plus. Mais il y avait très longtemps qu'ils n'ont pas dû y aller ou ils n'y sont jamais allés. On allait voir débarquer tout le petit Marseille. On allait voir tous les cas sociaux, etc., etc., etc. Mais quand on a vu arriver les demandes pour les logements sociaux dans le quartier qui a ouvert l'année dernière, tiens, j'ai vu arriver les enfants, la famille, qui ont fait des demandes de tous ceux qui étaient sur ce mode-là. Pourquoi ? Parce qu'on a 70 à 80% de la commune qui est éligible au logement social. Donc c'est ça qu'il faut réussir, c'est la question des mentalités. Et puis quand vous avez une marge de manœuvre qui existe, soit dans la commune, soit dans le département, soit la région, il faut y aller. Et pour résumer, il faut se comporter là-dessus, quand on est une collectivité ou un organisme public, il faut se comporter comme un acteur privé. Vous ne m'entendrez pas souvent dire ça. Mais en fait, il faut aller leur casser les reins. Et il faut se comporter comme eux. Et utiliser toutes les marges de manœuvre que vous donne le code de l'urbanisme, les PLU, pour, d'un point de vue concurrentiel, être plus fort ou leur casser les reins. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de lotisseurs ou de type extérieur qui auraient voulu venir prendre la zone et ils sont allés voir ailleurs. Voilà.
Merci pour cette expérience réussie, parce que c'est vrai que dans notre débat, ça a été assez pessimiste de tout le long. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'une personnalité serait en mesure de faire ce qu'a fait l'abbé Pierre, c'est-à-dire de lancer un nouvel appel? Est-ce que qui pourrait relancer un tel débat, et le porter, puisque nous, par tous nos efforts, on les porte de notre côté. Toutes les associations, toutes les ONG font ce qu'elles peuvent. Elles ont toutes les mêmes difficultés. Elles ont les mêmes difficultés financières avec toutes les augmentations de charges, etc. Est-ce que quelqu'un pourrait aujourd'hui prendre cette place-là? Voilà.
En fait, on faisait la réflexion il y a quelque temps par rapport à ces commémorations de l'hiver 54, c'est que l'abbé Pierre est arrivé à un moment où il n'y avait jamais eu en France d'appel à la générosité du public et où la radio était un vecteur extraordinaire. Alors c'est vrai qu'il avait, il avait des capacités oratoires et un magnétisme absolument extraordinaire. Mais il est arrivé à un moment qui était le bon moment. Et si vous regardez l'exposition ici, vous verrez, c'est assez intéressant. En fait, juste avant cet appel du 1er février, il y a eu une crise formidable en Hollande avec des inondations absolument terribles. Et premier élan extraordinaire de la générosité des Français pour aider les Hollandais. Et là-dessus, les amis de l'abbé Pierre se sont réunis. Alors lui, les amis de l'abbé Pierre, c'était des grands banquiers, des grands notables parisiens, se sont réunis et ils lui ont dit « Il faut qu'on tente ça, il faut que tu fasses un appel à la générosité du public. » Et ça a vraiment eu un impact extraordinaire. Mais c'était un contexte tout à fait particulier. Aujourd'hui, des appels à la générosité du public, il y en a tout plein. Ça fonctionne bien. Hein. Quand il y a eu le Covid, Emmaüs a récolté au niveau national 15 millions d'euros, puisque nous ne pouvions plus avoir d'activité économique. Donc les Français l'ont bien compris et ont abondé pour littéralement sauver les communautés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande générosité chez les Français. Mais c'est vrai qu'on est dans un brouillard médiatique absolument hallucinant, et effectivement on entend un peu de tout et n'importe quoi, effectivement Cyril Hanouna etc. Je pense que, alors aujourd'hui il y a la Fondation Abbé Pierre, les fameux chiffres c'est un organisme qui est extrêmement écouté et suivi, Enfin, il est écouté, je n'ai pas dit qu'il était entendu. En tout cas, il est lu. C'est un rapport extrêmement sérieux. Je pense que s'il y a des solutions, elles doivent être collectives. Effectivement, il faut trouver des manières collectivement avec les collectivités locales, territoriales, avec les administrations, etc., pour essayer de trouver des solutions un peu innovantes. Alors, je suis d'accord, il faut des règles. D'ailleurs, à Emmaüs, il y a des règles. Mmh. Les premières règles d'Emmaüs, il y en avait trois.
J'aurais pu te le dire, d'ailleurs. Les normes, les règles, vous en avez bien les règles.
On en a. Voilà, il faut qu'on soit intelligent, futé, pour continuer d'interpeller. Et je pense que, enfin, ce que je vois autour de la table, il y a de l'associatif, il y a du monde politique, il y a de l'administration du HLM. On est très différents. Mais on fait le même constat, finalement. Donc comment, au niveau local, pouvons-nous interpeller l'État? Ça pourrait être une question. Et ensuite, comment essayer de collaborer ou trouver des solutions pour créer de l'habitat? Alors nous, notre cœur de métier, c'est pour les plus exclus. Mais une idée forte de l'abbé Pierre et d'Emmaüs, toujours, c'est qu'il faut d'abord s'intéresser aux plus souffrants, parce que c'est en s'intéressant d'abord aux plus souffrants que finalement, en montant les marches, on a une société qui est saine et solidaire et dynamique.
Est-ce que quelqu'un souhaite conclure cette partie? Sinon, on peut passer à la partie questions-réponses avec le public.
Pas conclure, je voudrais revenir quand même sur cette notion de pessimisme. Moi,
je vous en prie.
On a fait surtout un constat, un état des lieux.
Oui.
Ce n'est pas forcément du pessimisme. J'en veux pour preuve que nous allons encore cette année faire 35 millions d'euros d'investissement. Donc on y arrive, on se creuse, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. Chaque euro est compté, les services sont à la peine, souvent. Mais il faut quand même être optimiste, on y arrive encore. Il y aura encore sur notre territoire des investissements en 2024. Donc tout n'est pas non plus si
très
noir
bien.
Que cela.
Très bien, merci.
Mais bon.
On va passer aux questions-réponses, si vous le voulez bien. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question pour nous inviter? Donc Anne-Marie, notre présidente.
Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le problème des Airbnb. Et ça me cause problème parce que je sais qu'on est dans un département où il y a des jeunes, ce que vous disiez tout à l'heure, qui sont d'ici, qui veulent s'implanter ici, qui ne trouvent pas de logement parce que c'est normal, c'est normal non, pour le propriétaire de ne louer que quelques mois par an, ça lui rapporte plus que de louer à l'année. Et c'est un vrai désastre, un vrai désastre.
Non, c'est une catastrophe.
C'est, alors,
on répond. Oui, c'est des
affichages. Non, alors justement, là, monsieur le sénateur, je vais revenir sur vos normes, parce que il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui vendent leur logement avec justement les DPE qui vont arriver, qui vendent leur logement pour faire du logement saisonnier, où là, ils ne seront pas concernés par leur règlement. Vous savez, le classement d'énergie jusqu'à F et G, les gens qui n'ont pas forcément ni les moyens, ni peut-être même la volonté de rénover leur logement, les vendent et font de la location saisonnière qui n'est pas contrainte. Donc là aussi, ça fait des logements en moins.
Mais là, ce n'est pas de la norme. Là, c'est des questions de choix politique.
J'entends bien.
C'est-à-dire que la norme, elle est faite...
La DPE, c'est une norme.
Mais oui, mais elle est faite pour des questions notamment liées aux dépenses d'énergie et à l'environnement. Il faut bien qu'on ait un tout. Et tant mieux s'il y a des règles. Alors je ne dis pas qu'elles sont simples. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas être plus facile. Je ne dis pas que ce n'est pas fait pour gaver parfois certains réseaux. Bref. Non, mais Airbnb, c'est une question de volonté politique. On s'est posé la question pendant un certain temps de se demander ce que ça coûtait au gouvernement de fiscaliser beaucoup plus les plateformes pour rééquilibrer le marché. Et en fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du lobbying. Il y a des intérêts financiers énormes qui passent par-dessus les parlementaires, qui passent par-dessus tout un tas de gens pour aller expliquer à Bercy qu'il ne faut pas toucher à ça parce que par ailleurs... on se rend d'autres services. Et donc, ça fait plusieurs mois que vous avez plusieurs parlementaires, alors notamment à l'Assemblée nationale, il y a une députée de la majorité, mais qui n'a pas la vie facile, et un parlementaire socialiste des Pyrénées-Atlantiques, Iñaki Etxaiz, qui se battent pour fiscaliser Airbnb. Donc, il y a une première proposition de loi qui est passée, mais le gouvernement détricote en face. Je suis moi-même intervenu à plusieurs reprises, on est intervenu pendant le vote du budget, il n'y a pas 36 solutions. Il faut casser l'idée selon laquelle on faire cela, fiscaliser plus, viendrait contre l'intérêt de ce qu'on appelle, je mets entre guillemets, les petits propriétaires. C'est-à-dire qu'on se dit, écoutez, il y a des gens pour qui ce n'est pas facile, ils se sont saignés toute leur vie pour avoir un petit logement et pour le mettre à louer, vous allez les mettre dans la panade. C'est faux. C'est pas facile à entendre, mais c'est faux. Une fois qu'on a voté les amendements qu'on a fait passer au projet de loi de finances au mois de décembre l'année dernière, j'ai reçu plusieurs lettres. Je réponds pas aux gens en disant « bah oui, je comprends bien ». Non, je leur réponds « vous avez tort, je comprends votre situation, vous avez besoin de revenus à votre retraite ». Déjà, si les retraites étaient correctes, vous ne poseriez pas la question, il faut se battre là-dessus. Et en plus, tournez-vous vers tel organisme. Si vous louez à l'année, vous pouvez avoir des garanties par rapport, parce que le fantasme, c'est le risque du cas social qui vous saccage l'appartement. Et pour quelques cas en France, vous avez des parlementaires qui vous font des propositions de loi, notamment au Sénat, qui sont adoptées évidemment par la majorité sénatoriale, pour mettre dehors les squatteurs. Je ne dis pas que c'est agréable quand on a travaillé toute sa vie pour avoir un petit logement et qu'il est squatté, c'est inadmissible. Mais statistiquement, c'est encore une fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc le vrai sujet, c'est qu'il faut cogner les plateformes, il faut cogner Airbnb, il faut que ça ne devienne pas aussi intéressant de louer partiellement. Et en plus, si vous louez votre logement privé en logement social, c'était un concept qui paraît bizarre, mais pourtant ça existe, avec toutes les aides qui existent, à l'année, vous ne perdez pas d'argent. Si, évidemment, si vous défiscalisez, etc., enfin, des crédits d'impôt, tout le truc. Mais pour un grand nombre de personnes, ça vaut le coup. Donc, encore une fois, le problème, il est culturel, c'est d'avoir l'idée que soi-même, on est un petit, parce qu'on a ce petit logement sans lequel on n'a pas le complément de revenu, et qu'on ne veut pas être saccagé par plus petit que soi, qui vient vous prendre un logement et qui vous paye mal. Donc, c'est une question de mentalité. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas tendre la main à l'autre pour dire, ben, j'ai un logement. Donc déjà, quand on a un deuxième logement, c'est qu'on a une petite garantie, quoi. Mais même s'il y a des gens très modestes, hein, qui toute leur vie se sont battus pour avoir un deuxième logement, et on le met à louer, on le met pas à louer à celui qui en a besoin, ben, c'est un problème de mentalité. Et quand je dis ça, je n'indexe pas les gens, je ne fais pas la leçon. C'est un problème de mentalité globale. J'en veux beaucoup plus aux différents gouvernements, aux bêtises qu'on entend à la télé, à la radio, qu'à la personne qui hésite. Parce que la personne, elle entend tellement qu'elle va être squattée ou que ça va être l'horreur, qu'elle ne le fait pas. Ce n'est pas cette personne-là qu'il faut incriminer. C'est le cadre qu'il faut changer. Mais Airbnb, la plateformisation de la société, les travailleurs pauvres chez Uber ou à Deliveroo ou Airbnb, mais faut faire sauter tout ça avec une batte de baseball législative.
Oui. Okay. Merci beaucoup.
Législative, hein, je ne sais pas, la violence.
On a une nouvelle question, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Je voulais élargir un peu, puisque on est là sur la côte atlantique, hein, sur un territoire qui va être touché par un certain nombre d'éléments du réchauffement climatique. Et sans se projeter à la fin du siècle, sur les 20 prochaines années, on va avoir à gérer les premiers réfugiés climatiques. Et quand on regarde un peu la stratégie de toutes les communes littorales de Nantes à Saint-Jean-de-Luz, on voit que plutôt que de réserver des points hauts pour des futurs réfugiés installés, on continue systématiquement, et quelles que soient les tendances politiques d'ailleurs, on continue systématiquement à avoir une volonté d'attirer du monde supplémentaire, hein, et plutôt du monde à revenus, hein, plutôt que de se consacrer à la population déjà sur place et de prévoir comment mieux adapté, je dirais, à la résilience de ce qui va arriver. Donc, effectivement, on a cette difficulté sur le logement social, mais globalement, si vous regardez, alors on a peut-être quelques exceptions comme l'exemple que nous a cité Michael, mais globalement, on est plutôt sur une attractivité. On veut amener des gens supplémentaires, et vous pouvez regarder tous les exemples, c'est exactement ce qui se passe.
Merci. Qui souhaite répondre à...
Enfin, notre littoral est très attractif. Je ne suis pas sûre que ce qu'on attire, mais c'est par essence. Le littoral, on est sur notamment la Charente-Maritime, mais c'est pareil sur le Pays Basque ou sur la Bretagne. C'est très attractif, une qualité de vie. Et effectivement, il y a des terrains, il y a peut-être des promoteurs, parce que, comme disait M. Vallée tout à l'heure, il y a des élus qui essayent d'avoir des réserves foncières, de maîtriser le foncier, mais ce n'est pas possible tout le temps. Et pas toujours une volonté non plus. Et donc il y a des promoteurs qui vont s'emparer de terrains qui seront inondés dans 30 ans, 40 ans. Mais voilà, comment on régule aussi ce marché qui est, enfin, on est quand même une tendance française assez libérale encore sur le droit de la propriété, le foncier. Et on n'interdit pas aux gens de traverser un département à un autre, encore heureux. Il y a une liberté de circulation. Mais je pense que, enfin, effectivement, on va se poser des questions dans 20-30 ans. Et sans parler aussi de la loi sur la zéro artificialisation des sols, des choses comme ça, qui sont aussi importants pour l'évolution de notre climat. Parce qu'il y a tout ça tout à l'heure, quand monsieur, vous me posiez la question, est-ce qu'il y a un souci budgétaire ? Non. Il y a un souci de rareté du foncier, un souci de transition climat, qui se pose sur nos prochaines productions neuves et sur l'existant. Donc on a aussi toute cette convergence de problématiques qu'on a à gérer avec moins d'argent et des fois des normes. Mais moi aussi, comme monsieur Vallée, il faut des normes. Enfin, je suis juriste, j'ai quand même besoin pour pas qu'on fasse tout et n'importe quoi.
Le séisme en Turquie. Hein. Oui, il y avait des bâtiments avec les normes, il y a des bâtiments
sans
les normes.
Ce qui est plus compliqué, c'est quand vous avez une superposition de normes avec des paradoxes. Ça, c'est plus complexe, mais il faut quand même un minima de normes. Mais pour répondre à la question, c'est très attractif. On est, voilà. Et puis très attractif avec des personnes âgées qui viennent aussi, puisqu'on a des retraités qui ont de l'argent, qui viennent. Donc ça pose aussi la question de des équilibres démographiques sur le littoral. Et pose la question de l'adaptabilité de nos logements, de l'APA par le département, enfin tout plein de choses. Mais
Margarita Sola,
je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, je nuancerai mon propos en disant qu'il y a quand même des équipes d'élus qui sont extrêmement responsables, qui sont dans une espèce de vision beaucoup plus à long terme de leur territoire et beaucoup plus dans la considération de l'environnement qui est mis à disposition des citoyens de la commune. Je prendrai pour exemple ce qui se passe à Andaille, ce qui se passe à Mimizan, ce qui se passe dans des communes comme ça, qui ont une forte attractivité touristique, mais où les équipes ont fait le choix de mettre sur pause à un moment et de dire, bah, un peu ce que vous avez fait à Marennes, au niveau de l'accessibilité à la propriété, de dire, nous, bah, comme en Angleterre, hein, on achète le foncier, le foncier.
On n'a pas fait ça, mais...
Non, mais ça ressemble un peu.
Non, mais c'est très bien. Ce truc-là est très bien aussi.
Mais j'ai compris que ce n'était pas tout à fait le modèle anglais. Mais
le bail solidaire,
oui. Le modèle d'Andaille, c'est on achète le foncier.
C'est bien, ça.
Et ça permet, alors que l'attractivité du Pays Basque, dans la Bidassoa, la côte et tout, cette attractivité est extrêmement forte. Je pense que là, moi, je suis pas d'accord pour dire bah, les élus, on sait bien, ils bourrent les bords de... Non, pas du tout. Ils bourrent pas, ils sont vigilants à leur territoire. Moi, je connais les élus, je vous dis, de Mimizan, qui sont très, très, très à... Vous, pardon ?
Non, je dis ça dépend desquels.
Oui, non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, faisons connaître les bonnes pratiques. C'est notre responsabilité citoyenne. Moi, je vous parle d'Andaille. Ils achètent le foncier. Ils permettent à des gens d'acheter le bâti. Et ça permet d'avoir une diversité, une mixité sociale dans les centres-bourgs et au bord de l'océan. Et je pense que ce sont des bonnes pratiques et c'est à nous aussi de dire ça c'est possible. Et c'est à nous en tant que citoyens qui avons élu nos représentants politiques dans les communes, les départements, les régions, d'avoir un niveau d'exigence puisqu'on a des connaissances en tant que citoyens. Nous avons des connaissances et mettons-les au service des autres.
Juste le temps que vous donniez le micro à la personne suivante. Il y a aussi un problème de mentalité qui est difficile à changer. On peut difficilement jeter la pierre, c'est structurel. C'est la fiscalité. C'est-à-dire que pendant très, très longtemps, une commune, pour augmenter ses ressources, elle avait besoin de gagner des habitants pour avoir de la taxe d'habitation, de la taxe foncière. Et donc, il y avait une espèce d'obsession. Et vous pouvez regarder les programmes ou électoraux dans n'importe quelle commune dans les années 80. Un maire, il était content quand il disait « on a gagné tant d'habitants ». Or, c'est paradoxal aujourd'hui, c'est même... Enfin, contre-productif. C'est pas si simple. Mais il y a une époque où c'était le Graal. Et donc, c'est normal. Bah, c'est un état d'esprit global et tout le monde cherchait à gagner des habitants. Donc, c'est aussi la fiscalité qui permet de casser des tendances qui ne sont pas les bonnes.
Oui, alors, je sais pas si Ça fonctionne ? Oui. Alors, effectivement, il y a de bons exemples. Effectivement, il faut les faire connaître et c'est important parce qu'effectivement, bah, de là peuvent naître d'autres, effectivement, idées. Moi, ce qui m'interroge beaucoup quand même, ce sont les logements vides, tous les logements vides. Ça, ça, vraiment, pour moi, c'est un crève-cœur. Chaque fois que je vois quasiment à l'année des volets fermés, je me dis que c'est quand même pas possible quand on sait le nombre de personnes qui sont à la rue. Ça, c'est le premier point. Les Airbnb, ça, vous en avez parlé. Moi, je trouve que c'est absolument intolérable. Mais moi, ça, ça me... Bon, j'utiliserai un peu votre formule, hein, avec la batte de baseball, mais bon, pas la vraie. Voilà. C'est absolument horrible. Et les logements qui sont insalubres. Parce que ça, il y en a. Vraiment. Et alors là, moi, je suis vraiment là pour les normes et pour les règles, pour qu'effectivement, le logement, ben, il soit pas, il se retrouve pas dans une catégorie FG, enfin, je ne sais quoi, au niveau chauffage et tout, parce que c'est des personnes, souvent, qui ne peuvent pas chauffer, qui se retrouvent avec des moisissures, avec des champignons, et je pense qu'au niveau santé, personne n'y gagne. J'avais une toute dernière question, une toute dernière interrogation. C'est quand une personne, elle est éjectée d'un logement, y compris HLM, comment ça se passe pour elle ? Parce que, bon, il se trouve que, voilà, j'ai une connaissance, rencontrée par l'intermédiaire d'une association, une personne qui s'est fait mettre à la porte et qui, depuis, galère comme c'est pas possible. Et donc, je ne comprends pas comment on peut laisser quelqu'un à la rue. Voilà. Bien sûr, je comprends quand on ne paie pas son loyer, quand il y a des difficultés, mais on ne devrait jamais en arriver là. À un moment, je me dis, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Qui souhaite répondre à ces différentes questions ?
Moi, je veux bien répondre sur les expulsions. Alors, les expulsions. Alors, c'est un sujet, effectivement. Je ne suis pas sûre que la salle va me suivre là-dessus. Moi, je dirige un office. Donc, on a une mission d'intérêt général. Je pense qu'on prend notre part, hein, pour prendre des catégories de gens. On expulse, effectivement. On expulse des gens. On en a au moins 10 par an, soit pour impayés, soit pour graves troubles de voisinage. Et c'est de plus en plus. Dans un office HLM, on n'expulse pas du jour au lendemain. Il y a 2 ans de procédure. Avant, il y a des mises en demeure. On envoie nos travailleurs sociaux. On envoie les travailleurs sociaux du département. Il y a des solutions qui sont essayées d'être trouvées avec Altea Cabestan, avec l'escale, avec l'ensemble. On met avant tout un parachute avant d'expulser. Les personnes qui sont expulsées, en général, c'est qu'ils n'ont pas pris la main qu'on leur tendait. Et je veux dire, par moment, il y a beaucoup de mains qui sont envoyées. Quand vous êtes dans un logement social et que vous êtes expulsé, alors soit vous partez de vous-même avant que le commissaire et l'huissier viennent vous chercher, mais il y a le préfet, le sous-préfet envoie une enquête sociale. Et les gens ne se retrouvent pas à la rue parce qu'ils sont repris par un autre bailleur. Et on est très maillé sur notre territoire, entre là une CAPEX. C'est là où on voit les situations et on ne peut pas dire... Alors, c'est toujours difficile. Vous allez peut-être me sortir, oui, une famille, des gens qui se sont retrouvés dehors. Mais je vous jure que c'est des gens qui n'ont pas fait ce qu'il fallait au bon moment. Et j'ai un cas très précis en tête où j'ai expulsé une dame au mois de juin et je me suis occupée d'elle tout le mois de juillet. Elle était dans nos bureaux tous les jours. Je la connaissais depuis longtemps. Et je lui ai dit, mais madame, ça faisait 2 ans, on a essayé de faire tout, vous avez tout refusé. Vous êtes allé devant le juge des tutelles, vous avez dit que vous étiez en capacité de vous gérer. Et donc le juge des tutelles n'a pas donné la tutelle, et elle n'a pas du tout fait... Voilà. Donc je sais que c'est complexe, hein, c'est compliqué, mais on en fait une dizaine par an. Mais c'est de plus en plus aussi pour graves troubles de voisinage, pour des trafics de drogue, pour d'autres choses. Parce que quand vous avez dans une cage une famille ou un ménage... qui pourrissent la vie. Moi, je veux bien tout entendre, aider. On essaye de tout faire avec nos médiateurs. Mais des fois, ça devient impossible pour l'ensemble de l'immeuble. Mais je peux entendre que dans cette assemblée, on ne va pas forcément suivre ce que je viens de dire. Hein. Voilà.
Merci. Margarita, vous souhaitiez intervenir.
Moi, je voulais faire... je vais essayer d'être extrêmement... faire une phrase. Non, je vais en faire 2 ou 3. je ne vais pas y arriver. Non, mais ce qui me semble extrêmement important dans la problématique aussi que vous soulevez au niveau des expulsions et de la difficulté à vivre avec le voisinage. Il y a des gens qui sont en souffrance psychique. Quand on voit que le gouvernement
là, nous a fait des grandes annonces en disant que ça serait une des priorités de la santé mentale. Il faut savoir que dans les services de psychiatrie, c'est la variable d'ajustement des hôpitaux. À Saintes, le service de psychiatrie de l'enfant avec les 12 lits adolescents, les 12 lits adolescents ont disparu alors que le docteur Quentin avait œuvré pour mettre en place le Lapsado, le Capado, en lien avec les services de la santé mentale au niveau national et au niveau régional. Très souvent, la psychiatrie, c'est la variable d'ajustement au niveau des hôpitaux. Et là, on se dit, ben, on va faire un effort sur la santé mentale. Ben non, il n'y en a pas eu de fait. Au contraire, il n'y en a pas eu. Donc je veux dire que c'est aussi parce que des professionnels de santé au niveau de la souffrance psychique qui a été exacerbée par toute la crise Covid, par toutes ces crises où les gens se retrouvent fragilisés par rapport au lien familial, par rapport au tissu social, et tous ces gens qui ont besoin d'un accompagnement spécialisé, il n'y a plus cette offre-là. Donc, c'est aussi pour moi un lien avec la difficulté du logement à vivre en société. C'est cette souffrance aussi qu'il y a à écouter et à prendre en compte si on veut une harmonie et une considération des uns et des autres.
Erwan, tu souhaitais intervenir aussi ?
Oui, c'est une question complexe et grave à laquelle malheureusement Emmaüs est aussi confronté. Je pense que Claire est tout à fait d'accord avec moi. Claire a été 20 ans responsable. Moi, ça fait une quinzaine d'années. On est des spécialistes de l'accueil. Et malheureusement, on est parfois obligé de faire des sorties. Je rejoins tout à fait le truc, c'est que les communautés Emmaüs sont aussi un peu les variables d'ajustement par rapport aux hôpitaux et par rapport aux hôpitaux psychiatriques, entre autres. Et moi, je ne suis ni médecin, ni addictologue, ni gérontologue, ni etc. Et malheureusement, parce qu'on fait de l'accueil inconditionnel, on est tout le temps confronté à ce genre de difficultés. Et peut-être encore plus maintenant, je reviens aux fameux légionnaires. C'est vrai que dans le temps de Claire, nous avions des personnes qui avaient eu un cadre dans leur vie. La guerre est un cadre complètement destructeur, on est complètement d'accord. Mais ça reste un cadre.
Totalement collectiviste.
Aussi.
C'est ce que dit Romain Gary quand il est démobilisé. Il dit « Je suis rendu à la vie civile, j'avais vécu quasiment une vie collectiviste. Et tout à coup, il fallait que je fasse tout moi-même. »
Complètement. C'est-à-dire qu'au sorti de ces années d'armée ou de guerre, ils se retrouvaient dans quelque chose qui, finalement, ressemblait à ce qu'ils avaient pu vivre. Et ces gars-là, c'est eux qui ont forgé Emmaüs. Hein. Aujourd'hui, on se trouve confronté à des personnes qui ont pu vivre des traumas complètement dramatiques parce que ils ont traversé la Méditerranée et vu par exemple les corps à côté dans l'eau, donc ils font de la décompensation. On a des gens qui devraient être en asile psychiatrique et soignés et qui ne le sont plus. On a des personnes qui, vieillissantes, parce qu'à Emmaüs aussi, c'est compliqué de vieillir. Moi, j'ai eu le cas où j'ai essayé d'amener un de nos vieux compagnons aux urgences, parce qu'il arrête de manger, il arrête de venir au restaurant, il se fait dessus, il a totalement... Enfin, il est en pleine dépression. Je l'amène aux urgences, et un jeune médecin me dit « Mais il n'y a pas d'urgence ». Le gars, je le laisse comme ça, dans 15 jours, il est mort, quoi. Mais il n'y a pas d'urgence. Voilà, on est confronté à ça. Et on est aussi confronté au fait qu'on est dans une société où, certes, il y a de la générosité, mais il y a quand même un lien social qui a été fracassé, quoi. Et où les gens ont beaucoup plus de facilité à converser avec ça qu'avec leur prochain. Et donc, nous aussi, on en voit les effets. Le collectif à Emmaüs, on rame pour le faire vivre. Et il y a des gens qui sont clairement aussi dans l'idée qu'ils vont utiliser Emmaüs pour leurs propres besoins. Mais alors la solidarité, elle est un peu là, quoi. Donc nous, on est confrontés à ça. Et c'est vrai que malheureusement, de temps en temps, se pose la question dramatique de sortir la personne. Et c'est là où on est arrivé en face d'une vraie perversion du système. il y a du temps de clair, mais encore jusqu'à récemment, jusqu'à une dizaine d'années, c'était encore facile, et c'était la richesse d'Emmaüs, c'est que quand on demandait à quelqu'un de partir, on savait qu'il allait pouvoir trouver une place dans une autre communauté Emmaüs. Parce qu'il y avait du turnover dans les communautés et les compagnons. C'était un peu comme les compagnons du Tour de France. Ils faisaient le tour des communautés. Ils étaient fiers d'annoncer, oh, moi j'ai fait toutes les communautés. Ils en connaissaient beaucoup plus que le responsable, qui connaissait 2-3 communautés au maximum. C'était comme ça. Ils faisaient leur Tour de France. C'est bien parce qu'ils donnaient des nouvelles des copains. Aujourd'hui, le système est complètement coincé. Complètement saturé. Parce que Emmaüs gère, comme je disais, 60% des personnes qui sont en situation de... en non-situation, donc on les accueille. Plus les personnes qui sont trop faibles pour avoir des solutions d'insertion dans la société, elles sont pour nous. Et donc, il n'y a plus aucune place libre à Emmaüs. C'est extrêmement difficile de trouver une place. Et donc, quand on est malheureusement... dans l'obligation de demander à quelqu'un de partir, c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Et pour la personne, et pour nous, et pour tout le système.
Le logement a toujours été au cœur des problèmes de société, puisque, effectivement, vous en avez décrit toute la variété, au moins sur le logement social. La question qu'on peut toujours se poser, c'est quand même, il y a eu des annonces gouvernementales successives sur les sans-abri. Comment peut-on faire aujourd'hui par rapport aux structures existantes sur un territoire, comme la Charente-Maritime, puisqu'il y a un certain nombre de structures qui s'occupent effectivement de près ou de loin, et comment donne-t-on à certaines structures déjà en place, comme Emmaüs, la possibilité d'élargir au maximum leur capacité d'intervention. Il y a un savoir-faire ici, bien évident, qui permet d'élargir et d'accueillir des situations innovantes. Et comment peut-on, à terme, avec l'aide de tous les partenaires locaux, inventer ces solutions-là qui, on le voit bien de tout ce que vous avez décrit, des auberges de jeunesse aux sans-abri, à la nouvelle population d'Emmaüs, l'accueil du logement social traditionnel qui, lui aussi, s'est beaucoup transformé. Comment peut-on arriver à trouver ces solutions? Je crois que ça serait peut-être l'occasion ici de voir s'il n'y a pas un petit groupe qui peut réfléchir à ces solutions à court, moyen et long terme. Mais il y a aussi du court terme qu'il faut arriver à résoudre assez rapidement. Et on voit que le logement n'est pas la priorité gouvernementale. Donc, que fait-on ?
Centri.
Il n'y a pas de solution dans l'hyper court terme parce que c'est une question, encore une fois, de vision un peu partagée globalement. Quand on parle des questions psychiatriques, la première chose qu'on vous répond, c'est est-ce que la personne était sous OQTF ou pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Annecy, je crois, il y a quelques mois, où une personne en situation psychiatrique a attaqué des gens, a voulu commettre des meurtres. La première question n'a pas été comment une personne dans cette situation psychiatrique se retrouve sans cadre, ça a été de se dire, mais comment il a fait pour revenir de Suède ou de Norvège? Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, non, mais là encore, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous avez entendu les termes du débat sur la loi immigration, enfin là où elle a eu lieu, c'est-à-dire au Sénat, où on présuppose que des gens traversent la Méditerranée pour venir se faire soigner les oreillons ou se faire refaire la chirurgie esthétique avec l'histoire de l'aide médicale d'État. Mais le débat était totalement lunaire. C'est-à-dire que sans caricaturer les positions des différents partis politiques, on va dire, qui sont dans le champ, qui ne sont pas dans les champs extrêmes, on peut poser des questions, il n'y a rien de mal à dire. Et les étudiants, est-ce qu'il faut une caution? Et comment ça se fait qu'on exécute mal des décisions pour renvoyer les gens qui sont venus illégalement dans leur pays? Tout ça, c'est des débats, on a le droit de les avoir. Je caricature pas les propos de certains collègues, mais enfin sur l'aide médicale d'État, le fait de s'imaginer que les gens venaient en France pour se faire soigner, quand par ailleurs les dictateurs de ces pays-là, on les accueille dans des hôpitaux militaires, toujours sans le dire. C'est cette espèce de paradoxe total sur le fait qu'on ne voit plus où sont les priorités qui fait qu'il y a d'abord ce combat-là à mener. Et alors des fois, il y a une petite accalmie pendant 15 jours quand vous avez une personne étrangère qui sauve un type de la noyade. Alors là, c'est formidable, c'est le bon noir, on est content, oui. Tout va bien. Bon. Mais donc, il y a déjà ça. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas de la psychiatrie
Et si on s'occupe pas du fait de savoir comment on accueille les gens à la marge, la façon dont on se comporte avec les gens à la marge, c'est la façon dont on accepte ou pas de se comporter pour l'ensemble de la société au bout d'un moment. Et il y a cette grande difficulté. Il y a une proposition de loi qui est passée cette semaine en première lecture de mon groupe, dans ce qu'on appelle une niche, sur l'élargissement de la nuit de la solidarité à l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que pendant une nuit, outre le fait qu'on sensibilise le grand public sur les problèmes du sans-abrisme, comme on dit maintenant, de compter pour se rendre compte de l'évolution du nombre de sans-abri. Donc ce sont des initiatives politiques qui, concrètement, ne vont pas chercher loin. Mais c'est important de mettre sur le devant de la scène le sujet, d'en débattre et de se dire que non, c'est pas tenable. Voilà. Et il y a d'ailleurs des personnes sans-abri dans, si pas toutes les communes de France, et pas dans tous les villages, mais quasiment dans toutes les communes de France. Et ce sont des sujets compliqués à traiter. Quand j'étais maire de ma commune, il y avait un cas très emblématique, t'es très connu à Marennes, d'une personne. Alors moi, j'arrive avec mes petits bras et on va voir ce qu'on va voir. Et je me dis, mais non, il faut qu'on lui trouve... Ben non, mais il ne veut pas y aller. Donc il fallait laisser des endroits ouverts l'hiver, l'air de rien, passer par plusieurs personnes pour que la personne le sache, mais qu'elle ne pense pas que c'était nous qui avions mis ça en œuvre. Voilà, il y a des jeux comme ça de rôle. Donc c'est compliqué, mais il faut un peu de... un peu de compassion et de volonté.
Non, mais il y a plein de...
Merci. À Bordeaux, il y a les sociétés HLM qui, sous l'impulsion d'un certain nombre de groupes de gens qui s'occupent effectivement des gens sans-abri, sont arrivés à faire occuper de façon temporaire des logements qui avaient besoin d'être réhabilités. Alors, ce sont des solutions en général à 2 ans, 3 ans. Mais voilà, je crois qu'on est dans de l'innovation qui, au départ, paraissait complètement impossible et qui désormais l'est. Alors oui, je crois qu'il n'y aura pas... Le logement est tellement varié de toutes les façons qu'il n'y aura pas une solution unique et simple. Mais il y a une multitude de faisceaux pour peu qu'on ait un objectif politique. Voilà.
Moi, juste pour compléter, je pense qu'on continue à avoir une réflexion en silo. Alors, excusez-moi de parler de silo, mais ça veut dire les sans-abri, les jeunes, les personnes âgées. Il faut arrêter ça. Parce qu'Emmaüs, vous avez toute la bonne volonté, mais que le prisme du sans-abrisme, moi, ça ne me convient pas. Ou que le prix. Je pense qu'il faut avoir une vision généraliste, nationale. Après, j'ai pas tout, j'ai pas la baguette magique, hein. Mais je pense qu'il faut qu'on ait vraiment qu'il y ait une vision globale de tout ça. Et je reviens à ce que vous disiez. Oui, on a des collègues en France, quand ils ont des parcs de rénovation en rue, avant de démolir, ils peuvent accueillir pendant une année ou deux des personnes avec des contrats courts et suivis par des associations. Mais c'est vrai qu'en France, il y a plein de choses qui peuvent se trouver.
Et ce sont des gens qui étaient effectivement sur les deux opérations immédiates de Bordeaux, qui étaient vraiment à la rue et sans y compris les
choses. En fait, on vous en compte pas, mais on n'est pas micro.
Bon, alors moi, je vais témoigner simplement de 20 ans de travail social sur Rochefort et puis de voir de plus en plus de familles avec des enfants à la rue et de plus en plus souvent des familles migrantes parce que sortant des CADA, il n'y a pas de solution pour ces familles-là, pas de régularisation pour la plupart du temps hein, puisqu'on est passé de taux très positifs de régularisation à des taux infinissimal et c'est dramatique pour toutes ces familles. Il y a des tas de familles qui ont envie de s'intégrer, qui ont envie de rester en France, qui travaillent même, parce que pour être régularisé, même si on n'a pas de papier, il faut travailler, ce qui est complètement aberrant. Il y a des familles ici qui ont fait des demandes de régularisation depuis plus d'un an, Erwan, qui sont toujours sans réponse de la préfecture de La Rochelle, des personnes qui veulent travailler, qui veulent s'intégrer dans la vie normale. Et ces personnes-là, s'il n'y avait pas des associations comme ce qu'on a créé sur Rochefort de 100 pour un toit, avec le soutien d'Emmaüs, le soutien de bailleurs sociaux, etc., etc., on ne pourrait pas les héberger. Mais on héberge 4 familles, ce qui est ridicule au regard du nombre de mères avec enfants qui sont à la rue sur Rochefort. Voilà. Donc, quelle solution ? Et arrêtons tous ces clichés sur les familles migrantes, parce que ce n'est pas parce qu'on a une OQTF qu'on est un dangereux ou une dangereuse terroriste.
Merci. Erwan, tu veux parler de notre d'Emmaüs et de 100 pour un toit ?
Oui, alors, enfin, je ne suis peut-être pas forcément le mieux placé pour parler de 100 pour un toit. Enfin, 100 pour un toit, c'est une initiative qui est d'ailleurs pas née d'Emmaüs, même si Emmaüs a fédéré un certain nombre de 100 pour un toit en France. Et c'est une initiative citoyenne qui consiste effectivement à se réunir un certain nombre de personnes qui chacun verse quelques euros pour finalement permettre à une famille de pouvoir habiter et payer un loyer, quoi. Et c'est vrai que ces associations sont plus dirigés vers les personnes étrangères et en difficulté administrative. C'est tout à fait juste cette histoire du travail. Alors, en Charente-Maritime, à la différence de d'autres départements, pour espérer une régularisation, il faut vraiment montrer qu'on est dans une dynamique de travail. À la limite, pourquoi pas ? Enfin, nous, à Emmaüs, on le fait vraiment pas mal. On a sorti des compagnons par le travail. Et aujourd'hui, on est très fiers. Sur les 2 dernières années, on a 4 jeunes gars qui viennent d'autres continents qui sont en CDI. Donc ça prouve qu'on est capable. Ceci dit, ce qui est moins compréhensible, c'est quand on accueille des personnes qui sont dans ce no man's land préfectoral et qui pendant 1 an, 2 ans, 3 ans attendent avec une promesse d'embauche en CDI. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup, que c'est difficile à avoir. Et ça, je crie effectivement au scandale. Donc, sans pour un toit, effectivement, à trouver une solution bien Emmaüs appuie. Je rebondis sur ce type de solution. Je pense qu'il faut qu'on soit novateur sur le territoire pour essayer de trouver très concrètement demain, après-demain, des possibilités de logement.
Alors, c'est vrai que c'est une innovation, mais ça posait. Alors, je sais, enfin, on loue 2 ou 3 logements à l'association. Je connaissais des personnes qui avaient créé là, qui sont venues vers moi il y a quelques. Mais après, réglementairement, moi j'ai dit, vous n'êtes pas un centre d'hébergement. Donc il faut que vous ayez un agrément. Et c'est comme ça que ils ont eu l'agrément pour qu'on puisse louer. Sinon, on n'était plus dans les clous du code de la construction de l'habitat. Et que moi, j'avais des risques que les services du préfet viennent me dire, mais à l'office, j'avais déjà mes objectifs à déterminer sur le public prioritaire. Qu'est-ce que vous allez louer à, voilà. Donc, vous avez eu l'association a eu l'agrément. Et je crois qu'on a mis bien 3 logements. On vous loue 3 ou 4 logements, je ne sais plus. Au moins 3. Hein. Oui. Donc, voilà. Donc, ça peut être. Voilà. Mais c'est toujours à la marge. Et il faut toujours trouver des solutions. Mais voilà.
Alors, moi, en tant que jeune, je vais poser peut-être une question en rebondissant sur les divers sujets que vous avez évoqués durant cette table. Notamment l'exemple qu'a sorti Michael Vallée, quand on parlait du petit Marseille qui allait arriver à Marseille par rapport au quartier. C'est le stress. Et donc, moi, travaillant au Petit Marseille et étant jeune et observant un petit peu ce qui se passe dans le quartier, en travaillant en partenariat, par exemple, avec l'APIC, qui est le centre social du Petit Marseille, mais qui gère aussi les autres quartiers, comme la Généinerie, il y a une crise aussi au niveau des centres sociaux, qui, par exemple, ils ont manifesté, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, voilà, parce qu'ils risquent de fermer. Et en fait, je veux parler de l'impact qu'ont ces centres sociaux sur ces quartiers-là. Maintenant, le Petit Marseille, autant peut-être autrefois il y a peut-être eu des soucis, autant maintenant il n'y en a plus. Bien sûr. Voilà.
Il
n'y
a jamais vraiment de soucis. Hein. Je pense que c'était plutôt dans le.
Oui, mais c'est.
Après, je pourrais parler 2 heures du Petit Marseille. Oui, ben oui. Ça fait 20 ans que je travaille dessus. Et on a fait de la réhabilitation urbaine, on a fait de la mixité, on a retravaillé dessus. Il n'y a jamais eu de souci. Moi, j'arrivais de région parisienne où les voitures brûlaient dans mon quartier. Jamais. Enfin, ça arrive de temps en temps. Mais c'était vraiment dans le... Et moi, quand il a fallu mettre des gens ailleurs, dans les autres communes, il y a 10 ans, pour le relogement, bah, c'était ce que disait M. Vallée. Donc, les cas sociaux du petit Marseille arrivent dans nos communes, attention. Donc on s'est battu, parce que 80% de la population française est éligible au logement social. Il faut l'avoir en tête, hein, c'est pas... Puis le petit Marseille, enfin c'est pas...
Non. Oui, non, franchement c'est un quartier, moi j'aime bien. Ma mère qui a un certain âge maintenant, a été élevée au petit Marseille. Donc déjà, voilà. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de communication là-dessus, parce que j'ai compris que du coup c'était un problème culturel, qu'il fallait casser ces idées-là par rapport au quartier. Du coup, est-ce que ce n'est pas du coup un problème de communication à faire peut-être au niveau national pour tous les quartiers comme ça
Au niveau national, on a des formes de mythologie. C'est-à-dire que l'idée que ce qu'on appelle les quartiers, c'est amusant parce qu'on n'a pas besoin de les qualifier pour savoir grosso modo de quelle forme d'urbanisme on parle quand on dit les quartiers, parce qu'il y a aussi des quartiers vers Neuilly, vous voyez, où c'est un petit peu moins compliqué, quoi. C'est un quartier quand même. Bon, c'est un quartier en banlieue parisienne, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc il y a une espèce de mythologie, alors qu'il y a des sociologues qui travaillent là-dessus, par exemple, sur des questions d'égalité des chances ou d'égalité d'accès à certains réseaux, à certaines opportunités de développement culturel, à certaines opportunités d'études. Il vaut parfois mieux être un gamin en banlieue parisienne avec un bon centre social au sein d'un quartier où l'arrêt de RER est pas si loin, donc en fait on peut aller à Paris, on est relié à la ville monde, que d'être dans certains milieux ruraux où il n'y a pas de foyer rural, où pour peu que la municipalité en fasse pas une priorité terrible, vous avez la chance ou l'opportunité, qui est très importante aussi, mais on ne peut pas résumer les choses à ça, pour toute la population, d'avoir la soirée du comité des fêtes à un moment. Mais enfin, la question du développement de l'accès des jeunes ou des moins jeunes à de la culture, à du lien social, c'est quand même ce qui fait toute la différence. Et donc il y a des mythologies là-dessus qui sont très difficiles à combattre, parce que par définition, ce sont des mythes, et on ne peut le faire qu'avec la preuve par l'exemple. Moi, je suis assez peu, un sénateur ne devrait jamais dire ça, mais je suis assez peu décentralisateur dans l'âme. Donc le fantasme selon lequel ça marche forcément mieux quand c'est dans des collectivités, non. Par exemple, sur le logement, moi, je serais d'avis, comme ma collègue, mon ex-collègue Marie-Noëlle Lindemann, qui a été ministre du logement, que les préfets aient beaucoup plus la main, qu'ils puissent prendre la politique du logement sur certaines communes quand elles se comportent mal, qu'on retire aux maires certaines compétences. Alors ça peut exister dans certains cas, mais moi, je serais d'avis que ça aille beaucoup plus loin. Donc, comment on fait ? C'est la preuve par l'exemple. Et outre le fait que je ne sois pas un grand décentralisateur dans l'âme, c'est par l'exemple de ce que font les collectivités très concrètement. Sauf que, comme tous les financements sont intercroisés aujourd'hui, il y a, donc, pour terminer, ce que vous évoquiez, par exemple, sur la question des centres sociaux qui sont fondamentaux pour faire le lien entre les gens qui habitent au même endroit, rural ou urbain, souvent urbain. Aujourd'hui, ils ont des problèmes de financement énormes parce que c'est toujours pareil. Voilà, il y a la question des financements, et le gouvernement nous dit que c'est pas tenable, et la déclaration de politique générale du Premier ministre a bien insisté sur le fait qu'on vous promet, on ne créera pas de nouveaux impôts, on n'augmentera pas d'impôts. Mais pour qui ? C'est pas grave de faire des impôts, ça dépend qui casque, mais en l'occurrence on a bien compris qui n'allait pas casquer. Voilà. Je rappelle que la suppression de l'ISF a quand même été un monument symbolique extraordinaire au moment où on baissait les APL.
Je vous propose une dernière intervention du public et on pourra conclure cette discussion.
C'était juste une réflexion à laquelle tu m'as fait penser. Parce que les communautés Emmaüs, ce sont des communautés qui accueillent des gens qui ont eu des accidents de parcours ou qui font régulariser les papiers pour rebondir, enfin prendre un temps de pause, rebondir et repartir. En fait, dans certaines communautés Emmaüs en France, alors effectivement en région parisienne, mais je crois que ça va s'étendre, celle que je connaissais avait 38 places et 22 compagnons actifs. Le delta, c'était quoi ? Alors, il y avait quelques personnes qui étaient à la retraite, puis c'est des personnes qui ont trouvé un travail, puis qui restent à la communauté parce qu'elles n'ont pas de logement. Et donc, vous avez quasiment... Donc, ce qui nuit finalement à la communauté, parce que moins vous avez de compagnons qui travaillent, moins vous pouvez trier, moins vous pouvez vendre, etc. Et donc, on a des communautés Emmaüs aujourd'hui, dont le tiers des compagnons sont des gens
qui travaillent, donc ne sont plus compagnons, ils restent à la communauté parce qu'ils n'ont pas de logement. Ce qui fait que ces communautés-là, ben, en fait, ne peuvent plus remplir le rôle qu'elles remplissaient jusqu'à présent et ben, il n'y a pas de solution. Les seules solutions en fait, qui se mettent en place aujourd'hui sont les communautés elles-mêmes qui louent des logements, parce que quand c'est Emmaüs, c'est plus facile, qu'elles font partager, etc. Mais est-ce que c'est aux communautés de faire ça? Voilà, c'est une bonne question.
Erwan, est-ce que tu veux bien conclure cette conversation?
Moi, je ne peux que confirmer.
Voilà. Je vous remercie tous. C'était un débat très fourni. On a appris beaucoup de choses. Je ne sais pas si on a fait avancer les choses, mais c'était intéressant de pouvoir échanger dessus. Merci au public, merci aux invités. Erwan, est-ce que tu veux conclure pour ces 70 ans?
Non, je suis très fier d'avoir organisé cette table ronde et d'avoir... Je vous remercie vraiment d'avoir accepté. J'ai trouvé que les débats étaient vraiment intéressants. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis le public a participé. Enfin, franchement, j'ai trouvé que c'était sympa et ça me donne envie de recommencer. Ouais.
Merci à Radio La Bigaille. Merci Jérôme.
Je crois que mon collègue a dû chercher ou doit chercher une grande tarte aux pommes.